Ouais, c'est Jean-Marie de l'Aveyron. Voilà, bah, et je viens d'écouter sur France Info la bonne nouvelle. Le rapport des experts concernant les OGM est très clair hein, sur la nocivité. Donc voilà, c'est la fête et j'espère que ça va être suivi de conséquences pour arrêter tout ça. Et surtout, je remercie tous les copains et copines qui ont fait toutes ces actions et qui vont permettre d'aboutir à quelque chose, quoi. Voilà, salut.
Au vu de ces travaux, le comité de préfiguration souligne la publication de plusieurs faits scientifiques nouveaux qui concernent l'impact du Mont 810 sur l'environnement, sur la santé humaine, l'économie et l'agronomie. Bravo. Du fait de ces éléments, le comité de préfiguration est d'avis que ces faits et questions représentent des interrogations quant aux conséquences environnementales, sanitaires, économiques possibles de la culture de la commercialisation du Mont 810. Les éléments de portée sanitaire soulevés par le comité s'appliquent également aux éléments de transformation autorisés à l'importation dans l'Union européenne. À plus long terme, il sera aussi important de prendre en compte les impacts écologiques des produits autorisés à l'importation. Point final.
Ouais,
c'est pas mal quand même.
Super. Bravo.
La lutte paye. Hein.
Écoute, pour l'instant, la lutte paye, oui, c'est en train d'avancer quand même pas trop mal. C'est vrai que moi, d'entendre, de lire ce document là tout de suite de la Haute Autorité, c'est quand même assez étonnant parce que c'est souvent les arguments qu'on a employés dans les réunions publiques, dans les procès. Quand on voit Christian Vélo, Serralini, tous, Testa, tout ça, ce sont des arguments qui ont été avancés, quoi, souvent. Hein. Et maintenant, bon, voilà, c'est repris officiellement. Enfin, c'est quand même incroyable d'être obligé d'en arriver là, d'être obligé d'avoir mené cette bataille, ce combat, tu vois, de lancer cette grève de la faim pour que, au fur et à mesure, jour après jour, des éléments se mettent en place. Bon.
Ça avec quelques rebondissements.
Hein, mais... Ouais, c'était un vrai polar, quoi, hein, quand même. Hein, c'est un vrai polar. Hein, c'est sûr que c'est un film à suspense terrible, quoi. Hein. On vit quelque chose, je pense, d'assez étonnant, quand même, hein, en ce moment. Et bon, il faudra bien peser ça après, mais je crois qu'il y a, voilà, il y a des choses qui se passent.
Donc là, on attend que la clause soit actée, quoi, c'est ça. Hein. Ben, c'est une formalité, quoi.
A priori, oui, ce soir, on va dire que c'est une formalité, encore que j'en suis même pas sûr, tu vois. Voilà, on attend ça.
On attend ça, mais prudence, les virages à 180 degrés, les têtes à queue ne sont pas si rares par les temps qui courent. Mais enfin, effectivement, il y a des raisons de se réjouir du côté de ceux qui, depuis tant d'années et tant d'années, lutte contre la culture OGM sur notre beau territoire. Donc ça, c'était les réactions, vous avez compris, de José Bové, entouré de ses compères qui continuent d'ailleurs leur grève de la faim en attendant des résultats et des informations quand même plus précises. Mais il semble, pour l'instant, soyons prudents, que cette bataille soit gagnée. Quand on dit la bataille, ça ne veut pas dire la guerre, mais ça accrédite l'idée qu'on ne perd pas toujours. Aujourd'hui, une émission très particulière, un dialogue qui a eu lieu pendant plusieurs années entre une femme et un homme. Une femme à l'extérieur d'une prison et un homme à l'intérieur de la prison. Cette femme, c'est une journaliste israélienne qui s'appelle Amira Haas et qui est célèbre en Israël et célèbre aussi dans les territoires palestiniens pour une raison, c'est qu'elle est la seule journaliste israélienne à vivre de façon permanente dans les territoires, plus précisément à Ramallah, en Cisjordanie. Il y a de temps à autre, assez rarement, des journalistes qui font des reportages dans les territoires, notamment, je pense à un excellent journaliste qui s'appelle Gideon Lévy, mais il n'y a que cette femme, cette jeune femme, Amira Haas, qui, depuis des années, vit en Cisjordanie et qui connaît parfaitement bien le monde palestinien, les territoires palestiniens, en témoignent ses nombreux reportages dans le grand quotidien israélien à Haaretz et les livres qu'elle a pu publier, dont un en français qui s'intitule « Boire la mer à Gaza ».« Boire la mer à Gaza ». Et au cours de sa carrière de journaliste, ces dernières années, elle a été amenée à rentrer en communication téléphonique avec un détenu dans une prison israélienne, un palestinien, militant palestinien, détenu dans une prison et qui avait une longue peine à assumer. Et d'abord c'était pour avoir des informations, et puis un dialogue est né entre eux, s'est développé au cours du temps, des mois, des jours, des nuits, et ça fait l'objet aujourd'hui d'une pièce de théâtre qui s'inspire de ces dialogues et qui a commencé hier et qui s'intitule Murmure et qui se joue, faut se dépêcher, jusqu'au 10 février à Confluence, 190 boulevard de Charonne à Paris. Et donc, cette pièce s'inspire des dialogues de Amir Haas et Mahmoud Al-Safadi, ce Palestinien. C'est un rapprochement très intéressant et une rencontre d'abord, évidemment, sans se voir, très intéressante parce que voilà un homme, voilà une femme qui parle de sujets dont on ne parle jamais ou rarement, très rarement, lorsqu'on évoque le conflit israélo-palestinien. Ça peut paraître invraisemblable ce que je dis là, tant ce conflit est scruté, tant cette petite partie du monde si petite qu'est Israël et les territoires palestiniens, c'est minuscule. Eh bien, tout y est scruté, et pourtant il y a toujours des sujets dont on ne parle pas, qu'on évite, qu'on passe sous le tapis. Parce qu'ils sont gênants, parce qu'ils sont encombrants, parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre d'un conflit, dans le cadre des négociations, dans le cadre de ce qui se dit ordinairement quand il s'agit de scruter ce conflit. Donc, ils ont parlé longuement, ça fera l'objet, dans les temps qui viennent, d'un livre écrit par à deux mains, entre deux, et je les ai rencontrés, j'étais en Israël ces jours derniers, ces temps derniers, et je les ai rencontrés, chacun, l'un à Jérusalem Ouest, l'autre à Jérusalem Est. C'était des hasards des lieux, des rencontres, et je les ai interrogés séparément, comme ils l'ont été si longtemps. Et c'est ces dialogues que nous allons retrouver, cette rencontre, et ces choses dites, ces murmures, donc, entre Amir Haas et Mahmoud Al-Safadi, qui font l'objet de cette heure que nous allons passer ensemble. Auparavant, d'autres messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour, et voilà, je m'interroge vraiment en tant que fidèle auditeur de France Inter par rapport à la suppression de la publicité sur le service public télévisuel. Parce qu'au moment où je vois que sur la radio publique, elle est en constante augmentation, et entre autres sur France Inter, et je me demande quel est le vrai but de notre cher président de la République. Voilà, quels sont ses objectifs réellement? Est-ce que c'est favoriser ses amis ou vraiment faire de notre télévision un vrai service public? Voilà. En tout cas, c'est un vrai point d'interrogation. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
Bonjour. Enlever la publicité sur le service public à la télévision ou à la radio, c'est très bien. Mais il faut bien trouver des sous, parce que pour faire des émissions de radio, de télévision qui tiennent la route, ça coûte de l'argent. Et en ce qui concerne la télévision, en général, il faut passer par la SFP, la société, l'ancienne SFP, Société Française de Production. À ce propos, juste un rappel, savez-vous qui avait racheté la SFP, donc la Société Française de Production? C'est notre grand ami Vincent Bolloré. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus sur la qualité à venir des émissions de télévision du service public. Ciao.
Salut Daniel, salut à tous. Eh bien, merci pour ces deux minutes de Pierre Desproges, qui était quand même un sacré visionnaire. Puis en même temps, tu nous emmerdes, parce que c'est bien plus simple de regarder la une sans réfléchir, plutôt que de se poser toutes ces questions, et de tout comprendre comme ça. Bon, la deuxième partie, c'est en déconnant, mais quand même. Allez, salut.
Ça serait pour vous demander de signaler au site là-bas.org que le prochain repère à l'entrepôt à Paris dans le 14e. Alors, ça sera le lundi 28 janvier à 20h. Voilà, si vous pouviez leur signaler. Donc, on a eu notre premier repère en décembre. Il y a eu une douzaine de personnes qui sont venues. Et c'est vachement bien passé. C'était très, très sympa. Donc, on recommence. Voilà. Et bah, merci à vous. Au revoir.
Pour ce soir, à Hakuna Matata à Pertuis, dans le Vaucluse, qui se trouve place de la Diane, le repère de la Bassigie suit s'intéressera aux AMAP, Association de maintien de l'agriculture de proximité. On regardera dans le panier. Pour ce qui est du mien, c'est Pierre de Villelor qui le fait pousser. Et bien sûr, nous parlerons de consommation, de caddie, de frigo, de légumes et de fruits de saison, bio de préférence. Voilà, vous l'aurez compris, une fois de plus, nous ne ménagerons pas nos méninges. Bonsoir, à ce soir.
Alors, c'est le début de l'année, donc il faut entourer quelques dates sur le tout nouveau calendrier. Entre autres, le deuxième jeudi de chaque mois. Alors, le deuxième jeudi de chaque mois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tournée, par exemple, en Belgique, aux Amis Réunis, à 19h, on se retrouve pour un repère. Et c'est également le cas à Narbonne, à la Maison des Potes, c'est également à 19h. Et puis, c'est aussi le cas à Tours, à 19h, au Barrio de la Cataluna. C'est aussi à 18h à Blois, à 19h à Joinville-le-Pont, pardon, à Blois, c'était aux Libertés. À Joinville-le-Pont, c'est à la Belote, 19h. Et à Saint-Denis-la-Réunion, Sainte-Clotilde, c'est la Tour de Mire à 18h. Et demain, nos amis du repère de Châlons en Champagne se retrouvent également au Café de France. À bientôt, ciao.
De ce que vous racontez là. Ça vous semble banal à tous les deux, mais c'est absurde, c'est fou. Il faut que tu sois en prison pour commencer à te dire, voilà, j'ai enfin trouvé peut-être là le moyen de connaître cette société israélienne qui est juste à ta porte, qui est juste à côté. Il faut tout ça pour qu'enfin tu te dises, j'ai une lucarne. C'est fou ce que vous êtes en train de raconter.
C'est absurde.
C'est fou. Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, avec Amira Haas et Mahmoud Al-Safadi, à travers le mur.
Flight number 2, arriving.
Moi aussi, j'ai pas l'idée, mais je vous expliquerai. Il faut vite qu'on se parle, que je vous dise quand est-ce qu'on peut se parler. Pour répondre à vos questions, je suis ici depuis l'âge de 22 ans. Et j'ai été condamné à une peine de 27 ans sur la base de mes aveux. Je ne fais pas un dessin. Pour appartenance à une association illégale, le Front Populaire, j'ai jeté des cocktails Molotov et mis feu à des véhicules à Jérusalem. Dossier de la police de l'Aude, numéro 6871. Au revoir.
Voilà, Mahmoud, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Je suis Mahmoud Safadé, ben 40, je suis nolad à Jérusalem, bahay à Jérusalem.
Je suis Mahmoud Safadi, j'ai 40 ans, je suis de Jérusalem, né à Jérusalem. Et je veux vivre à Jérusalem jusqu'à ma mort.
Mais est-ce qu'on est vraiment à Jérusalem ici? Dis-nous où on est.
On est à Jérusalem, qui est Anata, Dahyat Salam, Zahelek Anata, Shishayach, Jérusalem.
On est dans Jérusalem occupée. On est à Anata, dans le quartier de Anata qui s'appelle Dahyat El Salam, qui est la partie annexée à Jérusalem de Anata.
C'est
un des quartiers les plus pauvres de Jérusalem.
Depuis quand tu es revenu ici?
Nous,
Ma famille a déménagé ici il y a 4 ans. Moi-même, j'ai été libéré de prison il y a 1 an et 4 mois. Et j'ai rejoint ma famille ici.
Alors, ça fait 1 an et 4 mois que tu es sorti de prison. Et tu as passé 18 ans en prison.
Ok.
Oui, 18 ans.
On hésitait à, pour faire cet entretien, à savoir si on le faisait en hébreu ou en arabe. Et ce qu'on a appris, c'est que tu avais appris l'hébreu en prison.
Oui, j'ai appris 4 ans j'ai le paquet. تحلت للمود أفريد وحركخ زشنا كمهات كلمات التصفات تفتو وحركخ نرشمت للانوفرسيتا بتوحا أفريد وسيمت التوار رشون
Effectivement, après un an que j'ai été en prison, j'ai appris l'hébreu, ce qui a permis de m'inscrire à l'université israélienne par correspondance, et j'ai même terminé ma licence.
Quand tu parles hébreu, t'as l'impression de parler la langue de l'ennemi?
تسمع زي بتحلى היה לי קשה ללמוד עברית, כי כל הזמן קשרתי את העברית באמת באויב. אבל בגלל שידעתי שאין מנוס אלא ללמוד את השפה הזאת, כי זה חייבים ללמוד.
Au début c'était difficile, parce que je sentais que j'apprenais effectivement la langue de l'ennemi. Mais j'ai compris que c'était important de connaître bien l'hébreu pour connaître précisément l'ennemi, pour pouvoir lire ce qu'il écrit, pour pouvoir comprendre ce sur quoi il pense.
Le mur, on l'a vu, on l'a montré, on l'a photographié, on l'a dépeint, on l'a crié, on l'a hurlé, on l'a... Tout, le mur, mais le mur existait bien avant. Le mur existait bien avant, il existe toujours dans les têtes, il existe toujours dans les cœurs, au point que ces deux sociétés, la palestinienne et l'israélienne, semblent, quand on parcourt Israël, tout comme quand on parcourt les territoires, s'ignorer totalement. Comme si vraiment les autres, de l'autre côté de ce mur, qu'ils soient dans les têtes, les cœurs ou dans le paysage, n'existaient pas. Aller à Tel Aviv et penser à ce que vous avez vu la veille de Gaza et regarder ce que vous voyez autour de vous, vous pensez que ces gens ignorent totalement ceux de Gaza. Et lorsque vous êtes à Gaza, dans les camps des réfugiés qui parfois sont là depuis 1948, ils n'imaginent pas une seconde à quoi peut ressembler la vie à Tel Aviv ou à Haïfa. C'est ainsi, on le sait, ce que je vous dis là est une banalité. Une banalité répétée, et c'est vrai, c'est bel et bien vrai. Est-ce qu'on refoule ou est-ce qu'on ignore vraiment? Je pense qu'on refoule, pour ma part. J'arrive pas à croire qu'on puisse ignorer à ce point des frères humains qui vivent si près. Mais c'est ainsi. Or, il y a dans ce pays, Israël, des têtus, une bande de têtus qui sont là, qui veulent une autre politique, qui veulent un rapprochement ou qui veulent une solution. Et ils se battent et ils luttent inlassablement, implacablement depuis des années, depuis même avant la création de l'État d'Israël. Vous savez que cette année, c'est le 60e anniversaire de la création de cet État. Vous savez qu'aujourd'hui même, George Bush est à Jérusalem. Il passera à Ramallah. Vous dites, mais c'est quoi? C'est si près. Oui, mais c'est des univers si lointains, si étanches, si séparés sur une même terre. Et voilà que parmi ces têtus, il y a cette femme remarquable qui est Amira Haas, qui est une journaliste. Je disais qu'elle vivait aujourd'hui à Ramallah, donc en Cisjordanie, la capitale de la Cisjordanie, mais elle a longuement vécu à Gaza, dans les territoires de Gaza, d'où elle a sorti un ensemble de textes qui s'appelle « Boire la mer à Gaza ». Et quand en Israël on dit « boire, va boire la mer à Gaza », »,« va à Gaza », ça veut dire « va à Perpète, va au bout du monde, va, casse-toi, va en enfer », ça veut dire « va en enfer ». Eh bien, elle a vécu dans cet enfer. Pour elle, c'était pas un enfer. Elle s'y est fait beaucoup d'amis, beaucoup de
de textes, beaucoup de papiers, d'articles pour le journal Haaretz, mais sans jamais aucune complaisance envers le monde palestinien, envers la politique palestinienne. Mais j'ai d'abord dit le monde et j'ai raison, parce qu'elle a d'abord observé la société palestinienne, et pas observé, elle a vécu avec, dedans, dans une intimité, dans une proximité qui n'a en rien réduit la lucidité de cette géniale journaliste qui a reçu des prix et des récompenses pour son travail tout à fait singulier, qui lui vaut des menaces aussi bien du côté palestinien que du côté israélien. Or, j'ai commencé à évoquer, ce qui s'est passé, c'est que lors d'un de ses reportages, elle est rentrée en communication téléphonique avec un détenu dans une prison israélienne. Il était muni d'un téléphone portable et un dialogue s'est noué entre eux et au cours de ce dialogue, elle qui pensait connaître si bien le monde palestinien, eh bien non, elle ne le connaissait pas, ou pas aussi bien, ou pas comme ça, à travers les dialogues qu'elle a eus avec cet homme-là, et lui également, qui a combattu contre Israël, contre la politique israélienne, contre l'armée israélienne, comme beaucoup de combattants, bien sûr, ignoraient qui ils combattaient. C'est pas une jolie histoire qui finit avec un bouquet de fleurs dans la paix, les petits oiseaux et les colombes qui promènent dans le ciel des rameaux d'olivier. Non. C'est un constat, c'est une envie aussi de comprendre et peut-être de déchiffrer ce conflit si qui nous semble si connu et si bloqué et si désespérant autrement. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas, si j'y suis, à travers le mur. Que vous nous racontiez comment vous êtes arrivé à cette histoire de cette relation avec ce prisonnier palestinien, avec Mahmoud.
Il y avait une des nombreuses grèves des prisonniers.
En août 2004.
Il y avait très peu d'intérêt dans l'opinion publique israélienne.
בדיוק באותו יום איזשהו כינוס ברמאללה של כל הארגונים בעניין, לא יודע, איזשהו ניסיון שוב לחדש את האינטיפאדה, או למשהו כזה עם כל החזית עממית ומוסטפה ברגותי וכו'.
Et le même jour, il y avait une réunion des organisations politiques palestiniennes à Ramallah, et je me trouvais là-bas.
Avec le Front Populaire,
le parti de Mustafa Barghouti.
כל הטיפוסים האלה שניסו לחדש את האינטיפאדה.
Tous ceux qui essayaient de donner un nouveau souffle à l'intifada.
ואני התעניינתי בעניין של השביתה.
Et moi, ce qui m'intéressait, c'était tout d'un coup, cette grève m'interpellait.
אז חבר'ה מהחזית העממית נתנו לי את הטלפון של מחמוד, עוד לא ידעתי מי זה, ואמרו, דברי איתו ישר, והוא יספר לך את הכל.
Et c'est les militants du Front Populaire qui, à Ramallah, m'ont dit, si tu veux savoir plus sur la grève, voilà le numéro de téléphone de Mahmoud, et il te dira. Okay.
Allô. Bonjour. J'ai reçu votre numéro par un de vos représentants. Je suis journaliste. Vous est-il possible de me rappeler pour me donner des informations concernant votre grève de la faim? Merci.
Je voudrais qu'on revienne alors aux communications que vous aviez avec l'extérieur. Vous aviez la télé, vous aviez la radio, et tu pouvais communiquer avec l'extérieur, puisque tu as pu communiquer avec Amiraz.
Mahmoud
al-Safadi.
Oui, je me souviens, c'est en 2004, il y a eu une de nos grèves de la faim dans les prisons, j'étais dans la prison d'Ashkelon, et Amira était venue à Ramallah pour interviewer les familles de prisonniers qui organisaient des sit-ins de solidarité. Et c'est là qu'on lui a donné mon numéro de téléphone, Elle m'a contacté, j'ai pas répondu. J'ai regardé de qui il s'agissait. Le soir, je l'ai rappelé.
Ça veut dire que ils nous donnent le numéro de téléphone chez l'assir de quelle et que tout le monde qui est mis ou là, vraiment, ils ont des amis chez l'assir.
Voilà. C'est pas n'importe qui qu'on donne le numéro, puisqu'on n'a pas le droit d'avoir des téléphones. C'est pas n'importe qui qu'on donne le numéro d'un prisonnier, mais en amiral, les copains avaient confiance.
Est-ce qu'elle est considérée comme pro-palestinienne?
Bête.
Évidemment.
On
la respecte beaucoup, que ce soit les prisonniers ou que ce soit les Palestiniens à l'extérieur des prisons.
Allô? Excusez-moi de vous rappeler si tard, mais on utilise le portable avec prudence. Je serais ravi de parler avec vous. Nous lisons tous les mercredis vos articles avec beaucoup d'intérêt. Essayons de vous rappeler le plus rapidement possible. Au revoir.
C'était un moyen pour lui de briser la réalité carcérale d'enfermement.
Mahmoud סיפר לי שמאז שהיה לו הפלאפון כאילו הוא היה חצי משוחרר.
Mahmoud lui avait dit une fois que à partir du moment où il a eu ce téléphone portable, il s'est senti à moitié en liberté déjà.
וגם אני כשדיברתי איתו יכולתי לדמיין כאילו אני מדברתי עם מישהו באמריקה, לא בכלא.
Et même moi, lorsque je lui parlais, je pouvais croire à un moment que je parlais avec quelqu'un aux États-Unis et pas en prison.
אחרי, לא יודע, שבועיים, התחלנו לדבר על נושאים חוץ מהעניין השביתה, על מה אני עושה בכלא, מה אני קורא, והיא גם התחילה לספר על עצמה, וככה התחיל הקשר בינינו.
On a continué pendant une quinzaine de jours à communiquer pour lui donner des informations sur la grève, et après une quinzaine de jours, on a commencé à parler d'autres choses. Elle voulait savoir ce que je faisais en prison, ce que je lisais, ce qui m'intéressait. Et moi, je voulais savoir sur elle des choses. On a commencé à parler sur d'autres sujets.
אבל יש אנשים אחרים בחברה הישראלית שאנחנו באמת, אני עצמי, שכל הזמן רציתי להכיר את הצד הזה. אז מצאתי באמירה באמת, האיש שבאמת דרכו אני יכול לראות את החברה הישראלית מצד אחר שלה.
Et moi j'étais très curieux de connaître la société israélienne. Pas l'occupation, pas la répression, ça on connaissait très bien, mais connaître la société israélienne aussi, celle qui était solidaire, la société aussi, qui lutte contre l'occupation. Et pour moi, Amira était une espèce de lucarne sur cette société. À travers elle, je commençais à comprendre cette partie, l'autre Israël, cette partie d'Israël que je ne connaissais pas.
Tu te rends compte de ce que vous racontez là? Ça vous semble banal à tous les deux, mais c'est absurde, c'est fou. Il faut que tu sois en prison pour commencer à te dire, voilà, j'ai enfin trouvé peut-être là le moyen de connaître cette société israélienne qui est juste à ta porte, qui est juste à côté. Il faut tout ça pour qu'enfin tu te dises, j'ai une lucarne. C'est fou ce que vous êtes en train de raconter.
Mais c'est absurde.
Ouais, c'est fou. Donc, c'est elle qui t'a renseigné sur cette société.
Oui, maintenant, je vais vous parler de ce qui s'est passé à la série. Oui, je vais vous parler de... על החברה הישראלית, על מה שכותבת, גם על המשפחה שלה, כי אתה יודע, המשפחה שלה מיוחדת, כי אבא ואמא שלה הם ניצולי שואה, וזה עניין מאוד, אני למדתי אותו ממנה, והיה לי באמת הזדמנות לקרוא ספרים על זה, כי היא סיפקה לי הספרים האלה.
Oui, effectivement, notre dialogue qui se développe à travers le téléphone, c'est moi qui lui raconte la réalité de la vie dans les prisons, nos problèmes, etc. Et elle qui me raconte ce qui se passe en Israël, et au-delà, sa vie à elle, ses parents, et à travers ses parents, l'Holocauste, puisque ses parents étaient tous les deux des rescapés du génocide des Juifs d'Europe.
C'est pareil, il a fallu que tu sois en tôle pour commencer à ce qu'on t'explique la vie des Israéliens et la vie des Juifs, finalement. Tu vas pas me dire que tu ignorais tout ça jusque-là.
כן, עניין, עניין השואה, אולי זה עניין שאולי הוא מתכוון אליו, עניין השואה זה עניין, אני התעניינתי בו לפני שאני הכרת האמירה, אבל לא היה לי ספרים שאני אקרוא על זה. אני קראתי לעזמי בשארה, קראתי לדור צעיד, על הדעת הייתה אחרת מהסטריאוטיפ שהיה אצל כל הערבים, אצל הפלסטינים.
הוא אומר, par exemple, la question de l'Holocaust, c'est pas que j'avais pas entendu parler, mais j'avais très peu de moyens d'avoir une vraie connaissance. À part Edward Said et Azmi Bchara, qui allaient à contre-courant, d'une position fondamentalement négationniste. Mais c'est grâce à Amira que j'ai eu un accès à la littérature, à une connaissance livresque et beaucoup plus étoffée de ce qu'était la tragédie des Juifs.
Alors, lui, il nous dit, ça a été pour moi comme une lucarne qui s'est ouverte, qui m'a permis de comprendre la société israélienne.
Okay. Oui.
Ça m'a semblé un truc extraordinaire ce qu'il nous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tout d'un coup, il aura fallu tout ça, il aura fallu que ce type aille en prison pour commencer à comprendre
et reçoive un téléphone portable
et qu'il commence à comprendre par des conversations comme ça de gens qui se voient pas comment fonctionne un peu la société qui est juste à côté.
Mahmoud ishtamesh ba telefon meod bishvil lifrotz et hachomot shel hakele. והוא יצר קשרים עם לבנון, עם אלג'יר, עם מיליון מקומות הוא יצר קשרים בשביל לשבור את החומות של הכלא.
מחמוד s'est servi de ce téléphone portable pour briser les murailles de la prison et grâce à ce téléphone, il a eu c'est pas simplement la société israélienne qu'il a découvert. Il était en contact avec le Liban, avec la Jordanie.
Marcel Khalifa,
il était en contact avec Marcel le chanteur Marcel Khalifa.
Car je נפלתי לתוך איזשהו דפוס שהוא כבר קיים קודם דרך הטלפון.
Donc en fait, je suis tombé dans un système qu'il avait déjà mis en œuvre, commencé à mettre en œuvre un peu avant.
Faire de la prison une lucarne, c'est ce qu'a fait Mahmoud Al-Safadi. Et c'est des histoires, on a déjà entendu ces histoires, hein, du gars qui est en prison pour longtemps et qui profite, si on peut dire, de l'emprisonnement pour étudier, pour communiquer. Là, c'est le cas pour communiquer. C'est une nouveauté, le portable, après tout, pour les détenus. Et communiquer avec le monde et communiquer avec, donc, Amira, cette journaliste israélienne. Et sur un sujet qui est toujours occulté. Alors, celui-là est toujours occulté. C'est le négationnisme ou le révisionnisme palestinien envers ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire l'Holocauste, le génocide des Juifs. Et je vous raconte une toute petite histoire qui illustre bien ce que je veux dire. Il y a quelques années, je sais pas, au cours d'un reportage à Gaza avec Guiv en Ctil, on nous a présenté des écrivains de Gaza, des écrivains donc palestiniens, qui nous ont emmenés dans leur local où on a pris pour parler, prendre le thé, discuter de leur littérature et de leur travail. Et sur le mur, il y avait un portrait de Roger Garaudy. Alors, on était suffoqués, on leur dit, bah, attendez, vous savez qui c'est, vous savez ce qu'il dit, etc. Et oui, enfin, bon, la conversation est partie comme ça, comme vous pouvez l'imaginer. Eh bien, ça, cette séquence-là, on ne l'a jamais diffusée. Voilà, on ne va pas parler de ça, c'est pas le moment, il y a un conflit, il y a des camps, relatons les misères des uns et les victoires des autres, les avancées, la paix, les négociations, mais la vraie vie des vrais gens, l'épaisseur, les tabous, les défauts, les folies, les blocages, etc.
Non, c'est pas. Eh bien, il faut la qualité journalistique, humaine sans doute, encore plus de quelqu'un comme Amir Aas pour oser traiter de ces sujets et en parler si longuement avec ce détenu militant palestinien qui lui aussi, évidemment, ne manquera pas de faire comprendre de quoi il s'agit. Faire comprendre le nulle part de l'autre, accepter le nulle part de l'autre, connaître l'histoire de l'autre. Et on vient d'évoquer Edouard Saïd, le grand intellectuel Edouard Saïd, qui était palestinien, libanais vivant aux États-Unis, décédé depuis peu de temps, qui régulièrement s'adressait au peuple palestinien, à son peuple, en disant « Vous devez connaître l'autre, vous devez connaître l'histoire de l'autre, sinon on n'avancera jamais, sinon jamais, jamais la paix ne viendra. » Comment tes parents étaient arrivés ici et pourquoi ?
בגלל החלל שהם מצאו כשהם חזרו מהמחנות. הם שניהם היו קומוניסטים, שניהם רצו להשתלב בחברות שלהם, אחת הרומנית, אחת היוגוסלבית, אבל החלל וההכרה שזה משהו שונה לגמרי בין מה שקרה ליהודים לבין מה שקרה ללא יהודים, פשוט הוציא אותם מהחברה.
C'est le vide qu'ils ont trouvé lorsqu'ils sont revenus après la guerre. L'un en Roumanie, l'autre, ma mère, en Yougoslavie, c'est le retour à une réalité où ils voient que les juifs et les non-juifs n'ont pas subi la même occupation. Pour eux, en tant que militants communistes, c'était une occupation dont tout le monde était les victimes. Mais lorsqu'ils sont rentrés chez eux, mon père du ghetto et ma mère de Bergen-Belsen, ils ont vu que ce n'était pas la même chose.
Ton père était dans quel ghetto ?
Transnistria, en Ukraine.
En Ukraine.
Ils
étaient tous les deux des militants communistes, non-sionistes, mais c'est ce retour chez eux qui les a poussés à venir ici. Ils sont venus ici, le surlendemain de leur arrivée, tous les deux ont rejoint le Parti communiste.
Quelle époque ?
49.
Ah oui, et tous les deux pouvaient recevoir, comme beaucoup d'immigrants juifs qui venaient après la guerre, pouvaient recevoir de l'agent juif des maisons, des appartements de propriétés palestiniennes abandonnées.
Ils
ne se connaissaient pas, ils n'étaient pas encore mariés. C'était, la réaction des deux a été la même. Comment ? Mais c'est des maisons qui appartiennent à des réfugiés. Nous sommes nous-mêmes des réfugiés, nous ne pouvons pas prendre la maison d'autres réfugiés. Et c'est ainsi que j'ai fait l'économie de ce dilemme que beaucoup d'entre
eux,
de fils de bourgeois connaissent en Israël. Que faire de la maison arabe que j'ai héritée de mes parents ?
C'était quoi le boulot de tes parents, leur travail ?
Ils étaient fonctionnaires du Parti. Ah,
fonctionnaires du Parti communiste ?
Oui, du Parti communiste.
Ok.
On vivait d'un salaire de misère. Parce que la révolution était au coin de la rue.
On n'avait pas besoin d'argent, mais... T'as donné 18 ans, on t'a pris les plus belles années de ta vie. Est-ce que c'est des années de ta vie que tu dédies à la cause palestinienne ou bien que tu regrettes amèrement ?
Quand on connaît l'année dont tu arrêtes, on a chané ma elle, et on m'y est kavana ma chila azot, on a donné l'année dont tu arrêtes. On y a eu d'un chien, on a chon, chilam te chmona se chané ma chim chili, zé, on y chilam te zé bakavod, on y a eu d'un chizé, haïlik ma tafkit chili bahayim, chani.
Non, je ne regrette rien. Je ne pense pas avoir sacrifié ces 18 années. C'est ce que je donne. Ça fait partie du combat de mon peuple. La prison fait partie de mon combat et de ce que je devais faire.
de ces mots, de ces années, de ces attentes, de ces espoirs et de ces désespoirs est née une pièce qui a commencé hier à Confluence, 190 boulevard de Charonne à Paris. Je donne l'adresse, dans le 20e arrondissement. Ça s'intitule Murmure, et la matière de cette pièce de Gaël Chaya et Ariel Sipel, la matière de cette pièce, c'est la conversation entre Amira Haas et Mahmoud El Safadi, elle, la journaliste activiste engagée, et lui, le militant palestinien du Front Populaire, le FPLP, c'est-à-dire, vous avez compris, c'est de la gauche radicale. Il y a trois grands mouvements hein, palestiniens, le rouge, le jaune et le vert. Le rouge, c'est le FPLP, le jaune, c'est le Fatah, et le vert, c'est le Hamas. Là, c'est le rouge qui est minoritaire aujourd'hui, mais qui est un vieux mouvement toujours présent et qui comble les convictions toujours aujourd'hui de Mahmoud El Safadi. On va essayer de comprendre ton parcours. Comment est-ce qu'un homme peut dire j'ai perdu 18 années de ma vie, mais c'était pour la cause? Parce que c'est ça que tu es en train de dire.
Quand on parle, nous حيينو فينا كلا حييم كشيم زي حييم بتوخيو روشلايم يش أفليا يش كيبوش يش أكل يش أفطلا يش أكل.
La vie que j'ai connue avant la prison, c'était une vie pas facile, une vie difficile, économiquement difficile, une vie sous occupation, une vie de ségrégation, une vie d'occupation en fait.
אני זוכר שהיינו גרים בשכונת אבו טור זה ליד בקע בירושלים, והיינו שכנים ליהודים. אז כשהיינו קטנים היינו רואים איך הילדים היהודים יש להם כמעט הכל, אופניים, הכל כמעט, ואנחנו אין לנו הכל. אפילו התחלנו לגנוב מהם לפעמים את הדברים האלה.
Et moi j'ai grandi dans le quartier d'Abou Tor qui était tout à côté de voisins juifs à Jérusalem Ouest, et on voyait les gamins juifs qui avaient tout et nous on n'avait rien, à tel point que parfois on leur piquait leurs trucs.
Mais vous pouviez parler, tu parlais avec les gamins juifs de ta génération?
On parlait pas, on se bagarrait.
Oui, mais c'est pareil.
C'est autant d'avoir.
Et quand est-ce que tu t'es politisé, que tu as pris une conscience politique?
استرفت لأناشيم شمشيخيم لحزيد شتحيلوا لمادتي دواريم شأني رصيت للمود عليهم أنا رضفت أحريهم رصيت للمود إتزي.
À un âge très jeune, à 15 ans, j'ai pris contact avec des militants du Front Populaire qui m'ont appris mes premiers rudiments, mais c'est moi qui voulais, c'est moi qui les ai cherchés.
C'était quelle année ça?
T'avais 15 ans?
זה היה בשמונים ו...
81-82.
Donc avant la première intifada.
Oui, bien
c'était
sûr.
C'était avant. Mais rappelle-nous, Mikado, 81-82, ce qui se passait.
Israël mène une occupation qu'on appelait à l'époque l'occupation libérale. C'était une occupation qu'on ne ressentait pas en Israël, qui se faisait à bon marché. Les choses étaient relativement calmes. L'essentiel de l'attention israélienne, des dirigeants israéliens, était l'OLP à l'extérieur. Et c'est la veille, 81-82, c'est la veille de l'invasion du Liban, pour précisément casser l'OLP dans ses bastions au Liban. Ce qui laissait une certaine marge de manœuvre aux Palestiniens, et c'est comme ça que viendra l'intifada. Les Palestiniens des territoires occupés ont été un peu oubliés. Ils étaient calmes, on avait le sentiment, le faux sentiment, qu'ils étaient normalisés, que rien ne se passait, alors qu'une nouvelle génération, dont Mahmoud, une nouvelle génération de militants, avait émergé et explosé en 87 avec la première intifada. واللي ما بيغضب مش منا
منا ولا منا ابدا ابدا ولا منا مش منا ولا منا ابدا ابدا ولا منا ولا من كل العرب ولا من كل العرب ولا من كل العرب ولا من كل العرب واليوم يوم الغضب والثورة نار ولهب واليوم يوم الغضب والثورة نار ولهب واللي ما بيغضب واللي ما بيغضب واللي ما بيغضب واللي ما بيغضب مش منا ولا منا ابدا ابدا ولا منا مش منا ولا منا ابدا ابدا ولا منا ولا من كل العرب ولا من كل العرب ولا من كل العرب ولا من كل العرب
À quoi ça ressemble alors d'être engagé à l'époque dans les années 80 ? Qu'est-ce que c'est être un militant palestinien du FPLP dans les années
80 ?
D'abord, j'étais fier. Être militant du FPLP, d'avoir été accepté comme jeune dans le FPLP, c'était pour moi un objet de fierté.
Tes parents étaient d'accord ?
אני לא חיכית שהם יתנו לשיעור.
לא רפאי מונדה לאוטוריזציון.
הם לא ידעו, אבל הם ידעו שאני קרוב להם, אבל לא ידעו שאני עושה כל הכעסים לזה במחתרת, לשרוף מכוניות, לזרוק בקבוקי תבערה, כל זה שבא אחר כך, זה היה בסוד.
Ils ne savaient pas, évidemment, c'était clandestin. Ce qu'on faisait, brûler des voitures, jeter des cocktails Molotov, c'était des choses qu'on ne racontait pas aux parents. Et c'est ce qui nous a permis d'être actifs jusqu'en 89 sans être arrêtés, ce qui est assez rare de tenir aussi longtemps.
À part faire ces actions, est-ce que vous aviez un but politique clair ? Est-ce que vous aviez une formation politique ? Est-ce que, par exemple, est-ce que tu écrivais ?
Oui, c'est ce qui m'a fait différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand j'ai rencontré les assurés de la Hazit, qui sont entrés dans la Kélé, dans les années dernières, ils n'ont pas eu de אבל בזמני אני זוכר שבאמת מההתחלה התחילו לחנך אותנו.
Oui, on avait une formation très, très serrée. Et parce que je vois aujourd'hui où j'ai vu les jeunes militants du Front Populaire en prison, les nouveaux, la nouvelle génération, je suis surpris à quel point ils n'ont aucune culture politique. Nous, on avait une formation, le marxisme, l'histoire de notre mouvement, les textes de notre mouvement. La formation était essentielle. Aujourd'hui, elle n'existe plus.
De loin, bien au chaud, par certains, cet homme évidemment est un terroriste. Pour d'autres, qui sont régulièrement condamnés, mis à l'index, il s'agit d'un résistant. On connaît le passage de ces mots et l'usage qu'il en est fait. Sur place, c'est quelqu'un qu'un Israélien ignore. On ne sait pas, ils ne savent pas, on ne sait pas. Ça, c'est. Il y a le mur. Nous revoilà avec ce mur. Sauf que ces deux-là, eh bien, ont réussi ou tenté, au moins, de percer ce mur et de se parler et de petit à petit, parce que ça en a été des mots, et pour arriver à sortir des choses qui sont plus de l'ordre de l'humain, de l'humanité, de ce qu'on a sur le cœur, de ce qu'on suppose, de ce qu'on croit, de ce qui est plus approximatif qu'absolu avec ce péremptoire de ceux qui savent et qui commentent. Petit à petit, ils se sont rapprochés. On évoque, Mahmoud évoque la première et la seconde intifada. La seconde, voilà, c'est déjà un peu politisé. Dépolitisation, après tout, là comme ailleurs, à Miras.
היה לי מאוד, שוב, בשביל הספר שלי על עזה, נפגשתי עם הרבה אסירים לשעבר.
Lorsque j'ai écrit le livre sur Gaza, j'ai rencontré beaucoup de détenus libérés, des ex-détenus.
והאסירים החדשים, חוץ מאלה כמו ממחמוד מהתקופה של האינטיפאדה הראשונה, היה לי מאוד הסתייגויות מהם.
Mais j'avais beaucoup de réserves par rapport à la deuxième à la nouvelle génération de détenus.
של האינטיפאדה השנייה.
Ceux de la deuxième intifada.
Pourquoi?
הייתה הצגה גדולה אחת.
Parce que la deuxième intifada c'est quelque part une grande pièce de théâtre.
ראיתי אותם איך הם יורים באוויר.
Les voir par exemple tirer en l'air. des rafales.
Comme quelqu'un disait, lirot al shemesh.
Ou comme quelqu'un disait, tirer sur le soleil.
Et ראיתי אותם איך הם נכנסים לסחף הזה של נקמה בלי שום אסטרטגיה. נקמה לשמה.
Je les ai vus rentrer dans ce cercle vicieux de la vengeance, de la vendetta, sans objectif politique.
אני מכינה עכשיו הרצאה לאיזשהו מקום באמריקה שאני נותנת הרצאה.
Je prépare actuellement un exposé que je dois faire aux États-Unis.
וזה התמצית הברוטלית של, או הוולגרית של זה, זה שהאינטיפאדה הזאת הייתה בעצם תחרות של מי יותר גדול.
Et que cette deuxième intifada, c'est dit d'une façon un peu vulgaire, c'était qui c'est qui a la plus grande.
בין הישראלים לפלסטינים ובין הפלסטינים לבין עצמם.
Entre israéliens et palestiniens et entre palestiniens et palestiniens.
ומחמוד בדברים שהוא סיפר לי חיזק בעצם את הרושם הזה.
Et Mahmoud, dans ce qu'il m'a dit, a renforcé cette impression que j'avais. Son groupe, lorsqu'il a rencontré les nouveaux en prison, ils étaient surpris, extrêmement surpris du type de personnes qui
arrivaient.
Aucune préparation, aucune formation. La facilité par laquelle ils donnent leurs copains sans qu'on les torture.
On dit que tu es la seule journaliste israélienne à vivre dans les territoires. Tu vis à Ramallah. Alors, comment tu es perçue par les Palestiniens en général? On dit que c'est la journaliste qui protège les Palestiniens.
On s'est habitué à moi.
למשוגעת הזאת, היהודיה, שגרה עם פלסטינים תחת ההפגזות הישראליות.
On s'est habitué à cette juive israélienne folle qui partage avec les palestiniens les bombardements.
L'image qui est donnée de la société palestinienne avec toutes ces années de lutte, etc., c'est les tendances. Il y a le Hamas, le Fatah, le FPLP, les bandes armées, les milices, etc. Puis voilà à quoi se résume la société palestinienne. Et on disait qu'évidemment, comme dans toute société, il y a des riches et des pauvres. Et ça, c'est des notions qu'on n'a pas du tout en France, hein, dans la façon dont cette société est décrite, ni non plus son côté très conservateur, éventuellement très, très fermé sur elle-même, avec des principes très rigides, etc. Est-ce que ici, quand tu écris sur les Palestiniens, tu peux parler de tout ça ou tu restes sur les positions purement de lutte, de conflit
Les Palestiniens n'aiment pas quand je parle de leur société et des problèmes internes.
Mais il y a beaucoup de gens qui sont heureux que je l'écoute, parce que je peux me permettre de dire ce que les Palestiniens m'écoutent.
Mais il y en a quand même beaucoup qui sont contents que j'écrive ce que j'écrive parce que c'est des choses qu'eux ne peuvent pas écrire.
Parce
que je pars de l'hypothèse que toute collectivité opprimée est aussi un sujet dans son oppression. Elle n'est pas qu'une victime.
Okay. Oui.
וזה הגישה שלי לגבי הפלסטינים.
Et ça c'est mon approche aussi par rapport aux Palestiniens.
עכשיו, אבל אני רואה את הכבלים שהחברה מציבה בפני הציבור, בפני החברה הפלסטינית מחזיקה כל הזמן.
Et je vois les menottes quelque part. Par lesquelles la société palestinienne elle-même s'enferme.
במובנים רבים, מחמוד היה משוחרר מהחברה כשהוא היה בכלא יותר מאשר הוא היום.
Et dans une large mesure, Mahmoud était plus libre des contraintes sociales lorsqu'il était en prison qu'une fois libéré.
Ah.
Par exemple, lorsqu'il était en prison, il a mené un débat avec sa société sur l'attitude par rapport à l'Holocauste. Il avait un copain en prison, qui est aussi un copain à moi, qui s'appuyait sur les textes de Garodi.
ומחמוד התווכח איתו.
Et Mahmoud a mené le débat contre lui.
היום בחוץ הוא לא מרשה לעצמו להתווכח ככה.
Aujourd'hui, une fois qu'il est libéré, il n'ose plus mener ce débat.
On les retrouvera demain pour le deuxième volet de cette rencontre à travers le mur. Amira Haas, merci. Mahmoud Al-Safadi. Je rappelle donc le spectacle qui se donne à Confluence, 190 boulevard de Charonne dans le 20e arrondissement de Paris jusqu'au 10 février, il ne faut pas traîner, qui prend donc pour motif ses récits et ses dialogues d'Amira et de Mahmoud. Ça s'intitule Murmure et chaque soir il y a un invité pour débattre de ce sujet. Ce soir ce sera Laïla Chaïd, il y aura mercredi le 16 Dominique Vidal, Charlie Bauer le 17, Denis Siffert de Politis le 24, Elias Samba le vendredi 30. Vous pouvez facilement vous tenir informé du programme sur le site de France Inter, à la rubrique là-bas si j'y suis. Farid Chibani et Claudine Laperson étaient à la technique aujourd'hui. Yann Chouka et Koyen Guyen ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Péris et Christophe Imbert, qui attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Réclame.